écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles.
On vous parle d'un film belge qui sort aujourd'hui. Il explore le silence et la liberté de parole face aux abus.
Mais d'abord, la région bruxelloise est confrontée à une consommation toujours plus importante de crack. Un de nos journalistes est parti à la rencontre de ses consommateurs. Il nous explique dans un instant.
Je m'appelle Sandrine Puissant.
Je m'appelle Pierre Fagnard.
À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Des consommateurs qui ne se cachent pas ou plus des cuillères, des feuilles d'alu carbonisées, l'odeur âcre de l'ammoniac qui chauffe. Tous les indices et indicateurs vont dans le même sens. Bruxelles est confrontée à une crise du crack.
Le crack, c'est le nom que l'on donne à la cocaïne quand elle est cristallisée. Ces petits cailloux sont alors fumés. Dans les entrées de garage ou dans les stations de métro, les utilisateurs sont nombreux. Arthur Sante, du Pôle Enquête, est parti en reportage dans ces lieux de consommation pour comprendre qui sont ces craqueurs, comment sont-ils tombés dans la spirale de la drogue ? Arthur est passé en studio pour nous raconter. Bonjour Arthur.
Bonjour Pierre.
Je l'ai un tout petit peu dit en introduction, mais pour bien comprendre de quoi on parle, c'est quoi le crack en fait ?
Le crack en fait c'est une substance composée principalement de cocaïne. En fait c'est un dérivé de la cocaïne que l'on a préparé en la mélangeant avec une base, soit de l'ammoniac, soit du bicarbonate de soude. C'est pour ça qu'on appelle aussi de temps en temps le crack free base, base libre, qu'on fait chauffer pour obtenir des cristaux qu'on va ensuite en fait fumer.
Et en chauffant, ça produit des petits craquements, c'est de là que vient le nom crack. Les effets, ils sont fondamentalement différents de ceux de la cocaïne ?
Les effets sont en fait assez similaires à ceux de la cocaïne.
Puisque c'est le même produit à la base.
Puisque c'est le même produit. Simplement, ce mode de préparation et de consommation produit des effets plus intenses et aussi plus courts. Ce qui a pour, on va dire, effet supplémentaire de pousser à une consommation peut-être plus effrénée, plus compulsive, en tout cas d'après les travailleurs sociaux spécialisés dans le domaine des assuétudes avec lesquels on s'est entretenu pour ce sujet.
On a parlé de crise du crack à Paris pour désigner la situation notamment aux alentours de la Porte de la Chapelle. À Bruxelles, il y a des indicateurs qui permettent aussi de dire que la situation devient problématique.
Oui, alors je pense qu'il y a un premier indicateur qu'il ne faut pas négliger. C'est effectivement, je pense, les constatations visuelles que beaucoup de Bruxellois peuvent faire, que ce soit dans certains quartiers. Je pense notamment au quartier de la Porte de Halle où la situation s'est fortement dégradée ces derniers temps, où il y a une consommation visible en fait de crack dans certaines rues, des fois sur les marches de maisons. J'ai eu l'occasion de le constater par moi-même il y a peu de temps. Aussi dans le métro, elle se manifeste assez fort, cette consommation de crack. J'ai eu l'occasion de publier il y a 2 ou 3 semaines un reportage que j'avais effectué dans le métro avec des équipes de travailleurs sociaux qui s'occupent de questions de sans-abrisme et de toxicomanie. Et c'est clair que voilà, il fallait pas marauder très longtemps pour pouvoir rencontrer des consommateurs qui allumaient une pipe ou tentaient de fumer du crack d'une autre manière, même le sol dans des stations. Maintenant, ce ne sont pas les seuls indicateurs. Alors, il n'y a pas une statistique parfaite qui nous permettrait d'évaluer avec précision la part de population qui a déjà consommé du crack, notamment parce que tout ce qui est de l'ordre du questionnaire sur base déclarative, en fait, ce sont des choses pour lesquelles on ne va pas du tout toucher les consommateurs de crack, qui sont généralement assez marginalisés, assez précarisés. Je l'expliquerai plus tard. Il y a néanmoins, comme je le disais, quelques indicateurs. Un indicateur qui est assez intéressant, c'est les chiffres des associations qui mettent à disposition du matériel de consommation de substances dans le cadre de politiques de réduction des risques.
Du matériel stérile, évidemment.
Matériel stérile. À Bruxelles, il y a la plus grande de ces structures s'appelle Transit. Il n'y a pas que elle qui distribue du matériel, mais c'est généralement une bonne référence. Et quand on observe dans ces rapports annuels le nombre d'équipements distribués auprès des usagers de ces services, on voit que tout ce qui concerne l'inhalation de crack a vraiment explosé avec des chiffres qui ont pratiquement quadruplé. Par exemple, pour les distributions de pipes à crack depuis 2018. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les courbes, on observe que tout ce qui était matériel destiné à consommer, plutôt des produits que l'on s'injecte, celui auquel on pense en premier lieu l'héroïne, sont un petit peu en diminution et sont rattrapés en fait par les courbes qui concernent tout ce qui permet de fumer du crack. Il y a les observations et les données aussi que fournissent la salle de consommation à moindre risque Gate, qui a été ouverte en 2023 à Bruxelles et qui est aussi opérationnalisée par Transit, où effectivement effectivement la consommation par inhalation, autrement dit de crack, a vraiment pris le dessus, par exemple sur les injections depuis l'ouverture de la salle. Dernier indicateur qui est intéressant, même s'il a aussi tout à fait ses limites, ce sont les chiffres des patients donc en demande de traitement pour des consommations dites problématiques de substances psychoactives. Et ces chiffres, donc là, qui nous sont donnés par Cienzano, nous indiquent qu'un petit peu plus de 900 personnes avaient effectué des demandes de soins de ce type-là en 2022. On n'a pas encore les chiffres de 2023, mais ces chiffres sont en augmentation, en tout cas par rapport aux années précédentes. Et c'est un indicateur à ne pas négliger, parce que s'il y a plus de personnes qui demandent pour se faire traiter, c'est forcément qu'il y a plus de consommateurs, même si, évidemment, on comprend bien que là, ça ne concerne qu'une partie très restreinte des consommateurs de crack.
Les intervenants que vous avez pu interroger dans le cadre de ce reportage, ils préfèrent parler d'une crise de la précarité avant une crise du crack. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est parce que l'un mène à l'autre?
Oui, alors il y a deux nuances qu'eux souhaitent apporter. C'est de dire qu'il y a une crise du crack, mais surtout une problématique de la cocaïne, dans le sens où le crack, c'est un dérivé de la cocaïne, et eux veulent bien mettre l'emphase sur le fait qu'effectivement le crack focalise beaucoup d'attention parce qu'il engendre une consommation qui se fait de plus en plus dans l'espace public, qui engendre un certain nombre de nuisances, ça c'est vrai, en termes de propreté, d'hygiène, de sécurité, mais il ne faut pas négliger pour autant le fait que c'est lié à une crise plus large, ou en tout cas à une consommation plus large de cocaïne. Ils le font surtout dans l'optique de ne pas stigmatiser un certain public de consommateurs de cocaïne, parce qu'il y a aussi tout un versant de consommateurs qui fait plutôt partie de la classe moyenne ou de classe plus aisée, qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, crise de la précarité, pourquoi? C'est parce que les gens qui sont au contact des consommateurs de crack dans le cadre de leur travail insistent là-dessus. Généralement, beaucoup de personnes qui se mettent à consommer du crack le font pour trouver en fait une réponse à une situation dans laquelle ils se retrouvent, une situation de détresse, généralement financière, mais qui passe aussi par l'absence d'un logement ou d'un logement stable et digne, par une absence de revenus, par des soucis d'ordre psychologique, qui eux-mêmes peuvent être impactés par la consommation de crack. Donc on voit que c'est un peu tout un cercle vicieux. Une statistique que j'ai pas mis dans mon papier, mais donc il y a un dénombrement des personnes sans abri et mal logées qui se fait à Bruxelles, pour lesquelles les circonstances aussi de la trajectoire de la personne qui la font se retrouver en rue sont questionnés. Et on voit que finalement la consommation de produits stupéfiants arrive assez tard en fait dans la liste des raisons qui poussent les personnes à entrer dans la rue, ce qui fait déduire en fait que la consommation est plus souvent postérieure en fait à un parcours de rue, de débrouille dans la rue, que précurseur. En fait, c'est pas forcément la drogue qui mène les gens dans la rue, c'est plutôt une réponse, même si évidemment voilà, ce sont des grandes généralités et il y a beaucoup de cas particuliers.
Et à ça, il faut ajouter, comme vous le disiez, une ultra disponibilité de la cocaïne qui aujourd'hui semble toujours plus facilement accessible, et même au niveau du crack, aujourd'hui on le trouve presque prêt à l'emploi, à cette manipulation que vous expliquiez au début, de faire chauffer le produit pour le cristalliser. Bah, y a des dealers qui vendent des cristaux tout prêts, donc il n'y a même plus à faire cette étape à soi-même, entre guillemets.
Effectivement, alors grande disponibilité de la cocaïne, on le sait, c'est un sujet chaud depuis des années. Le port d'Anvers, qui est la première porte d'entrée de la cocaïne sur le sol européen, donc avec une substance de base qui est massivement présente dans notre pays, dont le prix aussi a fortement diminué, et des dealers, des revendeurs qui font preuve effectivement d'un grand sens commercial et de beaucoup d'agilité entre guillemets, parce que en tout cas plusieurs personnes interrogées dans le cadre de ce dossier en témoignent. Il y a eu une réorientation en tout cas de l'achalandage de certains dealers qui autrefois vendaient des produits tels que le cannabis et qui aujourd'hui fournissent des doses de crack effectivement préparées pour qu'elles puissent être consommées assez rapidement en fait par des personnes qui n'ont pas toujours le cadre en fait adéquat pour pouvoir voire même le savoir-faire en fait pour pouvoir préparer ces produits. Donc ça rend le produit de plus en plus disponible et de moins en moins cher, avec un conditionnement aussi, ça je trouve ça intéressant de noter, de plus en plus faible. Donc un vieux consommateur de crack m'expliquait qu'à l'époque, lui préparait son produit lui-même, mais qu'à l'époque on n'achetait jamais de la cocaïne en très petite quantité, ou en tout cas pour des très faibles montants, inférieurs à 40-50 euros. Aujourd'hui on peut se procurer une dose de crack ou quelques doses à 10-15 euros, ce qui va permettre en fait de s'en fournir assez rapidement et pour un usage vraiment direct, quoi.
J'ai évoqué Paris et la colline du crack, c'est pas juste un problème bruxellois, c'est un problème de grande ville en fait.
Non, effectivement, dans mon papier je mentionne Paris et Genève, ce sont deux grandes villes francophones qu'on connaît très bien, ce ne sont pas du tout les seules en Europe à être concernées concernés par la problématique. Effectivement, c'est un problème, on va dire, métropolitain aujourd'hui qui se pose dans beaucoup de grandes cités européennes. Là encore, on peut l'expliquer par différents facteurs. À la fois, l'offre de services, entre guillemets, de solutions qui s'offrent aux personnes qui sont dans une grande détresse, donc dans les grandes villes, c'est-à-dire que c'est dans les grandes villes qu'on va pouvoir, par exemple, si on est mal logé, trouver des squats, trouver des associations qui offrent des solutions d'hébergement d'urgence, des services de suivi et éventuellement, si on le souhaite, c'est aussi en ville qu'on va trouver des lieux de passage où on va pouvoir faire la manche, etc. Donc essayer de trouver un petit revenu. Bon, ça, c'est un secret pour personne. Maintenant, il y a aussi une dimension importante, je pense, qui est liée à la crise de l'accueil qu'on connaît aujourd'hui. On sait que dans le contexte actuel, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas intégrées dans la trajectoire d'asile, qui se retrouvent à la rue par ce biais-là. Et une partie de ces personnes se retrouvent dans le public qui se met à consommer du crack aujourd'hui. Et ça, ce sont des phénomènes qu'on retrouve également dans d'autres capitales, comme à Paris, avec pas mal de mobilité aussi entre les personnes, entre les différentes grandes métropoles d'Europe.
Ça soigne une addiction au crack?
Oui, alors j'ai eu l'occasion pour évoquer le sujet, notamment de parler avec Charles Conreich, qui est professeur et le chef de l'unité psychiatrique au CHU Bruckmann, et qui connaît bien les questions liées notamment aux addictions. Il m'expliquait que la cocaïne, une addiction, peut se soigner plus facilement que pour d'autres substances, parce qu'il y a davantage une dépendance psychologique, m'expliquait-il, une dépendance qui se manifeste de façon très, très physique. Une des difficultés principales qui est évoqué par le secteur, c'est que contrairement à l'héroïne, qui a aussi connu sa période de grande crise de l'héroïne, à laquelle on a remédié notamment partiellement, mais grâce à l'arrivée de la méthadone et des traitements de substitution, ça a été un long cheminement, mais aujourd'hui c'est quelque chose de bien institutionnalisé. Pour la cocaïne, il n'y a pas de substance alternative et médicalisée qui peut être proposée, mais ce sur quoi insistent aussi tous les professionnels du secteur, que ce soit dans le domaine de la santé, mais aussi du suivi vie sociale des consommateurs de crack, c'est que aujourd'hui le crack c'est vraiment une réponse à une situation de vie dégradée, et que si on n'agit pas en fait sur les conditions de vie et sur cette dégradation des conditions de vie des personnes concernées, on va sans doute pas pouvoir faire grand chose. On peut imposer une cure à un consommateur de crack, le sevrer pendant 2 semaines, 1 mois, si au sortir de cette cure il se retrouve de nouveau en rue à vivre dans des conditions insupportables, ce sera effectivement difficile d'imaginer qu'il pourra continuer sur cette lancée. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que j'ai eu l'occasion d'interroger quelques consommateurs dans le cadre de ce projet, et je ne pense pas l'avoir écrit dans mon article, mais l'un d'entre eux me disait qu'il avait fait quand même plusieurs passages en prison, mm-hmm. et qu'effectivement lorsqu'il était en prison, donc il est passé par des périodes de sevrage, mais il m'expliquait que dès qu'il sortait de prison, la première chose à laquelle il pensait, en fait, c'était simplement acheter pour pouvoir consommer. On voit bien que la problématique est plus complexe que ça.
Justement, vous avez recueilli une série de témoignages. Ils disent quoi de leur consommation, ces consommateurs?
Alors, les deux témoignages que vous pourrez lire dans le soir, ce mercredi, retracent le parcours de deux consommateurs qui ont vraiment des profils assez différents, dans le sens où il y en a un qui, aujourd'hui, dit ne plus consommer de crack, sauf de façon vraiment très occasionnelle. Il a toujours une assuétude à d'autres substances. Mais par contre, il a un parcours de consommateur de crack très long, pratiquement 20 ans. Et ce monsieur explique qu'il a commencé plutôt son parcours de consommateur de substances psychotropes en fréquentant le milieu de la nuit et en ayant connu une espèce de gradation dans les substances qu'il a prises. D'abord les ecstasies, ensuite la cocaïne qu'il sniffait, et puis pour passer finalement au crack, mais d'une manière à la base assez récréative, qui s'est finalement transformée dans une autre forme de consommation. Et alors, ce qui est intéressant avec ce profil-là, c'est que c'est quelqu'un qui a en quelque sorte réussi à faire cohabiter sa consommation avec un mode de vie qui s'inscrit dans une forme, et je dis entre guillemets, de normalité, parce que j'aime pas forcément ce mot, mais donc ce monsieur a un logement, un travail, et continue à vivre sa vie en fait malgré cette forme d'addiction. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer un autre homme qui s'appelle Nizar, et qui a eu un parcours tout à fait différent, et qui ça va rendre vraiment plutôt lui à une chute assez récente dans la rue, suite à des événements personnels et familiaux, mais qui s'accompagne d'une perte de travail, de revenus, et puis d'un début de consommation dont lui voudrait sortir parce que c'est cette consommation, en fait, dit-il, qui l'empêche de juste remonter la pente et qui l'enferme dans un cercle vicieux, quoi.
Un article passionnant, en tout cas, à lire dès ce mercredi. Merci beaucoup, Arthur.
Merci, Pierre.
Bouche à oreille.
Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation, et c'est livré par un membre de la rédaction.
Le dernier film de Joachim Lafosse, Un silence, sort aujourd'hui au cinéma. Il s'inspire d'un fait divers, l'affaire Victor Hissel, avocat des parents de Julie et Mélissa, les petites victimes de Marc Dutroux, condamnées pour détention d'images pédopornographiques puis poignardées par son fils. Le silence en question est celui de sa femme, et ce silence, la honte. Lila Maître en parle avec notre spécialiste cinéma, Fabienne Bras de fer.
On ne ressort jamais tout à fait la même quand on voit un film de Joachim Lafosse. Joachim est un cinéaste belge qui interroge nos limites depuis son premier film, depuis 2001, depuis son film de fin d'études, Tribu. Et donc quand on voit Un silence, qui est son 10e long métrage, ben, on ressort profondément bouleversé, touché, agréablement surpris aussi de la qualité cinématographique du film, parce qu'il y a un vrai parti pris de mise en scène. On sent que c'est un cinéaste qui se confirme de film en film, mais voilà, il progresse encore avec des acteurs magnifiques, mais aussi le propos, fatalement, qui est très puissant et qui nous met face à nos propres silences. Donc quand on ressort de cette projection, on se dit, et nous, est-ce qu'on a gardé le silence sur quelque chose dont on était le témoin ?
Pour ce film, Joachim Lafosse s'est inspiré d'un fait divers réel. Comment il a adapté ce fait divers à la fiction ?
Joachim Lafosse s'est inspiré de l'affaire Victor Hissel, qui était l'avocat des parents de Julie et Mélissa, les petites victimes de Dutroux. Cet avocat a été condamné pour détention d'images pédopornographiques. C'est une histoire très choquante, évidemment. Joachim s'est inspiré de ce fait divers. Il a travaillé son scénario pendant plus de 8 ans. Il a fait plusieurs versions. Il dit très bien que son film est à la fois les faits, donc le fait divers, la vérité judiciaire et aussi la fiction. Il a créé des personnages pour ce qu'il voulait défendre dans ce film. C'est une combinaison de ces 3 strates qui forment le récit.
Un silence s'appuie surtout sur la femme de l'avocat, qui est jouée par Emmanuelle DeVos. Pourquoi ce personnage en particulier ?
En fait, c'est très intéressant parce que dans la progression de l'écriture du scénario, Joachim Lafosse raconte que quand il a donné une énième version à Emmanuelle DeVos, à l'actrice qu'il avait choisie pour jouer la femme et la mère de cette histoire, Emmanuelle DeVos a refusé parce qu'elle trouvait que son approche, ça ne lui plaisait pas. Donc il est reparti à l'écriture pendant 4 mois. Et il a réorienté justement l'histoire vue beaucoup plus du point de vue de la femme et de la mère. Et c'est justement ce qui est très intéressant et très puissant dans son film, c'est de poser ce regard sur cette femme qui pendant 30 ans porte un secret. Et ce silence n'arrive pas à s'exprimer, à dire à son jeune fils la réalité des choses. C'est intéressant aussi parce que ça nous questionne, nous, sur nos propres silences, à travers cet angle féminin. Elle n'a pas voulu cette situation, mais la porte. Ça oriente vers 2 choses, à la fois la libération de la parole, combien c'est essentiel, parce que quand la parole ne se libère pas, ben on va vers le pire, mais aussi ça démontre à quel point il faut du courage pour parler. Et c'est des sujets qui sont en pleine actualité avec toutes les choses qui se passent, notamment dans le monde culturel. Depuis MeToo, c'est dans notre actualité.
Les 2 journalistes à l'origine des révélations du Qatar Gate publient un livre aujourd'hui. Le texte de Louis Collard et de Joël Matriche retrace le déroulé de l'affaire à partir des documents de l'enquête.
Il dévoile des éléments qui n'ont pas encore été publiés, comme un curieux rendez-vous de l'eurodéputé belge Marc Tarabella. Le livre contient aussi toute une série de conversations savoureuses tirées des écoutes judiciaires.
On vous recommande évidemment de le lire, mais on en profite aussi pour vous rappeler notre série de podcasts sur le dossier. Vous pouvez retrouver ces épisodes intitulé Qatar Gate, le récit, sur Le Soir et dans votre application de podcast préférée.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin.
Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à parler de notre podcast et à partager nos épisodes autour de vous.
À demain.